Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi.
Merci de votre accueil.
RTL midi.
Le 12-30.
Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassard.
Ravi de vous retrouver pour RTL midi, le grand carrefour de l'information de la mi-journée, pour tout savoir de l'actualité, pour comprendre et vous le savez surtout pour commenter. C'est votre émission. Bonjour tout le monde. Bonjour Bénédicte.
Bonjour et bonjour à tous.
Vos appels dès maintenant au 32-10 sur tous les sujets qui vous intéressent et vous nous rejoignez également sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Bénédicte, l'actualité d'abord, c'est la remise du rapport Borloo sur les banlieues.
Lutter contre le repli identitaire et communautaire en mettant sur la table 5 milliards d'euros et en lançant 19 programmes, un plan de réconciliation nationale est maintenant attendu à l'Élysée.
Et un plan commenté dans quelques minutes par l'invité de RTL Midi, Stéphane Gatignon, ancien maire de Sevran. Il s'est toujours battu pour les banlieues, il a jeté l'éponge face à un exécutif inactif. Il va prendre la parole dans un instant.
Les enseignants recadraient 4 circulaires très minutieuses, publiées aujourd'hui sur la meilleure manière d'enseigner le calcul, les problèmes mathématiques, la lecture et la grammaire.
Et autre invité de RTL Midi, Françoise Popineau, du principal syndicat enseignant en primaire et en maternelle, le SNUIPP. Elle va s'arrêter sur ce ministre de l'Éducation nationale, rebaptisé depuis ce matin, professeur Blanquer.
Les fraudes aux allocations familiales de plus en plus nombreuses, plus 5% sur un an. Des fraudeurs qui oublient bien trop souvent de déclarer leurs revenus. Et puis on espère un véritable show de l'OM au stade Vélodrome ce soir. Marseille-Salzbourg en demi-finale aller de la Ligue Europe. Les supporters sont déjà là et ils viennent de toute la France. La météo, Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Cet après-midi, le temps sera calme avec quelques passages nuageux.
Des passages nuageux plus nombreux que ce matin sur la moitié nord du pays, avec un petit risque d'averse du côté de la Bretagne, en Normandie et sur les Ardennes, mais ces averses seront très faibles. Le temps restera très ensoleillé sur les plages du nord, très ensoleillé dans le sud-est jusqu'au massif central et sur la côte aquitaine, mais toujours avec le Mistral et la Tramontane qui souffle jusqu'à 70 km/h en rafale, avec des températures en baisse sur la moitié nord du pays. Petite fraîcheur, 13 degrés seulement à Brest, 15 à Reims, 16 à Paris et Dijon, des températures encore très agréables dans le sud, 25 à Narbonne et 24 à Marseille.
Et on confirme avec Patricia juste avant 13h. Ensuite, vos rendez-vous, une histoire comme tous les midis, un jour sur la Terre. Et à 13h50, bien sûr, Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne l'OM. 14 ans après, Marseille peut-il rêver à une nouvelle finale dans une Coupe d'Europe? Eh bien, vous êtes assez partagé. Seulement 47% de oui sur notre site RTL.fr. Vos appels pour débattre dès maintenant au 32-10. Marseille peut-il le faire? Avis de fans de tout le pays, à l'image de Franck de Mayenne.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et je pense qu'ils peuvent l'atteindre. Ils ont des très très bons joueurs à l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'ils ont la possibilité. Par contre, il faut éviter de prendre des buts à Marseille. On les attendait surtout pas là. On attendait surtout Lyon, que l'équipe de toute la France les supporte, parce que je trouve que voilà, c'est le seul club français qui reste à l'heure actuelle. J'espère qu'ils vont se qualifier.
Appelez-nous au 32-10. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Un plan Marshall pour les banlieues, les arbitrages et les annonces du président de la République sont attendus pour la fin du mois de mai. Mais déjà ce matin, Jean-Louis Borloo a déposé à Matignon un rapport de 169 pages, rapport qui met en garde contre, je cite, un nouvel apartheid. L'ancien ministre de la ville de Jacques Chirac a été chargé par Emmanuel Macron d'une mission sur ce sujet. Pour Jean-Louis Borloo, il faut créer un choc.
Enfin, il faut qu'on réattribue nos richesses, nos moyens humains. C'est relancer cette rénovation urbaine qui avait métamorphosé une partie des quartiers, mais qui est à l'arrêt. Ça va être des magnifiques cités éducatives avec énormément de moyens humains et d'accompagnement, sport, culture, etc., qui, j'espère, vont changer la donne. Au fond, je ne suis que le notaire. Vous savez, un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant.
Jean-Louis Borloo et ses proverbes africains. Sinamir, bonjour.
Bonjour.
Justice, éducation, sécurité, emploi. Au total, eh bien, ce sont 19 programmes qui sont détaillés dans ce rapport pour revitaliser les quartiers prioritaires.
Oui, il y a beaucoup de choses dans ce rapport au slogan « Vivre ensemble, vivre grand » imprimé dans la nuit pour pouvoir arriver à temps sur le bureau d'Edouard Philippe. Vous avez entendu Jean-Louis Borloo. Premier programme, la rénovation urbaine. En colère, l'ancien ministre dénonce l'arrêt des grues depuis 4 ans dans les quartiers prioritaires. Il propose au mieux donc 80 000 destructions et reconstructions, espère générer 40 000 emplois grâce à cela, le tout piloté par la création d'une nouvelle fondation nationale, un guichet unique pour les élus où seraient regroupés collectivités, financeurs, partenaires sociaux et bailleurs. Sur l'enfance et l'éducation, autre volet important, là aussi, Borloo voit grand, voire très grand, création de 30 000 places en crèche dans les quartiers prioritaires, destruction ou rénovation des 100 collèges les plus vétustes, et puis création d'une académie des leaders, une passerelle sans diplôme qui permet permettrait aux jeunes des quartiers populaires sélectionnés par concours de devenir fonctionnaires stagiaires de l'ENA pour remettre un peu de la méritocratie voulue par De Gaulle, dit Borloo. Et attention à ceux qui ne respectent pas les règles et les quotas fixés dans tous les domaines. Le monsieur banlieue d'Emmanuel Macron veut une nouvelle cour de justice en charge de l'équité territoriale. Reste bien sûr le coût de ce futur plan Marshall. On parle de 48 milliards comme pour le précédent Borloo, mais que l'État n'a financé qu'à hauteur de 3%, précise l'ancien ministre. Même objectif donc, impliquer financièrement les bailleurs et les entreprises pour diviser la note.
Voilà, décryptage RTL signé Sinamir. Alors pour aller plus loin, il fallait absolument entendre celui qui a toujours défendu les banlieues et qui a jeté l'éponge épuisée par un exécutif sans inspiration sur ce sujet. Ancien maire de Sevran, donc bonjour Stéphane Gatignon.
Bonjour.
On vient de décrypter avec Sinamir ce plan pour les banlieues. Les pistes qui en ressortent sont-elles selon vous à la hauteur?
Déjà, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'urbain, il y a à la fois de la petite enfance, il y a à la fois de la culture, il y a la question du numérique, il y a la question de l'emploi, de la formation professionnelle, il y a un peu de tout. C'est issu d'un long travail qu'on a mené quand même, où, y compris nous les élus, on a joué le jeu aussi, y compris avec le gouvernement, parce qu'il y a eu les histoires des commissions, enfin les fameuses péripéties des 8 derniers mois. Après, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Stéphane Gatignon, je vais vous parler d'argent quand même. Le plan Borloo propose la création d'un fonds de 5 milliards d'euros. 5 milliards de plus. Depuis des années, on en a dépensé de l'argent. Et vous le dites, et vous en êtes le témoin, sans beaucoup de résultats.
Il ne faut pas oublier qu'il y a la rénovation urbaine a apporté quand même des résultats. Mais c'est une politique qui est maintenant ancienne. C'était 2004.
C'est à l'arrêt, ça.
Ça, aujourd'hui, c'est à l'arrêt. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la rénovation urbaine, il faut mettre à plat, il faut dire on arrête et on recommence une autre philosophie. On remet les gens autour de la table et on avance. N'oublions pas que la rénovation urbaine, l'argent ne vient pas essentiellement de l'État. Elle vient essentiellement des bailleurs sociaux, du 1% patronal, etc. Idem quand on parle, par exemple, de la petite enfance. L'enjeu, c'est pas l'argent de l'État. C'est qu'il y a une discussion avec la CAF pour répartir différemment et sur des enjeux à la fois d'investissement et de fonctionnement pour des lieux d'accueil de petite enfance dans les territoires prioritaires parce que c'est là où il y en a le moins. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez travailler, mais quand il y a des familles qui ont des gamins en bas âge et qui peuvent pas le faire garder, de toute façon, il y a un problème.
C'est un énième plan. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui les gens qui habitent ces quartiers et que vous connaissez?
Pour moi.
Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils attendent encore quelque chose de l'exécutif, franchement?
Il y a de la défiance. Mais après, comment je peux dire? Enfin, moi aussi j'ai de la défiance. Voilà. Y compris ce plan, ce que j'ai dit à Jean-Louis et aux autres, les deux derniers jours, je leur ai dit, moi je trouve regrettable, je vais vous le dire, je trouve regrettable que ce soit pas le président de la République qui prenne le... C'est lui qui a donné la mission à Borloo, c'était à lui, je veux bien qu'il soit aux États-Unis avec Trump, etc. J'ai pas de soucis. Il arrive aujourd'hui, ce midi, il pouvait faire un truc d'une heure pour accueillir Jean-Louis Borloo, lui donner le plan officiellement, et ça montrait que c'était le président de la République qui s'intéressait à ça. Déjà, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Et après, moi, la défiance, elle sera, je veux voir, si ça finit par un comité interministériel... comme on en a tous les ans ou tous les deux ans, avec tout le monde qui est content en province, enfin en région, et puis à la fin, délégué interministériel à la ville, enfin, ça sert à rien. Voilà, aujourd'hui, il faut que le président dise « on y va », c'est tout ce plan, et on prend dans l'ensemble, ça veut dire que c'est des hommes différents, à la fois au niveau politique, mais aussi dans l'administration, l'enjeu de trouver... Ça ne marchera pas si, par exemple, il n'y a pas 20 à 25 préfets en France qui sont chargés de ça et d'appliquer les choses. Mmh. Ensuite, ça ne marchera pas si on continue, par exemple, dans les départements où on a un préfet à l'égalité des chances, des sous-préfets, des délégués du préfet. Il n'y a pas besoin de tout ça. Un préfet qui est le taulier, son sous-préfet par arrondissement qui gère le truc derrière, et il discute direct avec les maires et les associations. Et on roule comme ça.
Stéphane Gatignon, vous avez démissionné il y a quelques semaines de la mairie de Sevran. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas de ne plus être au cœur de la machine?
Parce que vous en parlez encore avec passion.
Ben oui.
Non, mais moi, je suis passionné par la banlieue, par ce que c'est, parce que je me dis en même temps, c'est l'avenir. Putain, c'est là que ça se passe et tout le monde s'en fout. Il y a un problème, quoi. Voilà, mais franchement, c'est un soulagement énorme. Mmh. Voilà, c'est là, il y a toute une forme de, pas de pression, mais y compris de pression sur le résultat aussi, sur ce qu'il fallait apporter. Moi, au bout de 17 ans, c'est difficile. Voilà, après, c'est autre chose.
C'est autre chose. Merci à vous Stéphane Gatignon d'avoir été l'invité de RTL Midi en ce jeudi. C'est un plan de plus pour les banlieues que vous pouvez commenter au 3210 dès maintenant. Vous qui les connaissez, ces banlieues, vous qui y vivez, vous nous rejoignez au 3210. Est-ce qu'il y a de l'espoir encore? Face à ces millions d'euros dépensés, 3210, vos prises de parole dès maintenant, on va vous écouter.
Emmanuel Macron, tout juste rentré des États-Unis, a vraiment dû apprécier la petite phrase de François Hollande. Ce dernier l'a taclé hier soir à la télévision, on peut le dire, en le qualifiant de président des très riches. Et déjà ce matin, le premier ministre Édouard Philippe a répondu en ces termes. L'amertume, c'est un poison de l'esprit. Les fraudes aux prestations sociales en nette hausse l'année dernière. RTL vous le révélait ce matin. 45 000 personnes ont voulu tromper leur caisse d'allocation familiale pour un montant global de près de 300 millions d'euros. Mais qui sont donc ces fraudeurs, Christophe Ponzio ?
Eh bien, ce sont ces allocataires qui touchent l'argent qu'ils ne devraient pas de manière volontaire et répétée. Montant moyen d'une fraude, 6 455 euros, et en tête des prestations fraudées, les minima sociaux. Deux tiers des fraudes les concernent, en particulier le RSA. Quant à la manière, dans près de 3 cas sur 4, il s'agit d'omissions sur ses revenus réels, on les cache, ou de fausses déclarations. Haute-Cournée est en charge de la lutte contre la fraude à la Caisse nationale des allocations familiales.
La fraude classique, c'est plutôt on va masquer une petite somme d'argent chaque mois dans les déclarations trimestrielles de RSA par exemple, in fine ça va être qualifié de fraude. Et plus l'allocataire change de situation, plus ça lui donne évidemment un risque de fraude plus facile, et donc c'est vraiment lié à la structure de la prestation.
Pour autant, le fraudeur passe de moins en moins entre les mailles du filet. Plus d'un allocataire sur deux a fait l'objet d'un contrôle l'an dernier, 35 millions en tout. Vincent Mazauric, directeur général de la CNAF, rappelle l'échelle des sanctions.
Premier niveau, un avertissement. Deuxième niveau, des pénalités. Troisième niveau, rare mais important, des poursuites pénales. Attention, on peut aller au tribunal pour une fraude sociale.
Reste que ces fraudeurs sont ultra minoritaires. Ils représentent seulement 0,36% des allocataires en France.
Merci Christophe Ponzio. Une dernière minute, tu as un appel à la grève chez Air France. Les 3, 4, 7 et 8 mai prochains. Et puis à Notre-Dame-des-Landes, il y a un nouvel avertissement aux occupants illégaux. Les expulsions reprendront à partir du 14 mai. Ce jour-là se déroulera la première réunion du comité chargé d'étudier les dossiers de ceux qui ont un projet d'installation. Mais pour les autres, Édouard Philippe, le Premier ministre, les met en garde. Ils s'exposent à des poursuites.
12h42, la suite de RTL Midi dans un instant. À vos cahiers, les enseignants rappelés à l'ordre par leur ministre.
RTL Midi. Stéphane Carpentier.
Bénédicte Tassard.
Créer un cadre pour les professeurs des écoles. C'est l'objectif des 4 circulaires qui viennent d'être publiées par l'Éducation nationale. 4 textes qui détaillent les recommandations sur comment inculquer les bases de la lecture, de la grammaire et du calcul. Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
Quelles instructions également sont envoyées dans les écoles primaires?
La priorité, c'est que tous les enfants qui arrivent au collège sachent lire, écrire et compter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc pour la lecture, il faut bannir la méthode globale et revenir à la méthode purement syllabique. C'est le grand retour du béaba. C'est le retour aussi des leçons de grammaire pour que les enfants comprennent la structure de la langue sans oublier le vocabulaire. Cela se traduit par 2 exercices de 15 minutes d'écriture par jour, une dictée quotidienne, 5 à 10 livres étudiés par an, et pour former parfaitement les lettres, les enfants doivent utiliser des cahiers à réglure avec de grosses interlignes. Pour les mathématiques, le ministre recommande 15 minutes de calcul mental par jour. Les enfants doivent connaître les 4 opérations et savoir résoudre des problèmes. En fait, le ministre de l'Éducation ne touche pas au contenu des programmes, mais à la méthode. Alors, vous avez sans doute reconnu d'anciennes méthodes, mais non. Ces recommandations s'appuient sur les dernières recherches en sciences cognitives. Elles sont donc modernes et s'accompagnent d'un livret d'apprentissage de la lecture au CP de 130 pages envoyé par mail aux enseignants.
Merci Armelle Lévy. Alors, pour aller plus loin, nous sommes avec Françoise Popineau, secrétaire générale du syndicat SNUIPP-FSU, premier syndicat d'enseignants du primaire et de maternelle, donc directement concerné. Bonjour à vous.
Bonjour.
Dites-nous, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, c'est un peu le professeur, la professeure Blanquer, elle est en train de vous donner la leçon, non ?
Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il est effectivement en train de nous dire qu'il y a une bonne méthode, il y a un bon manuel qui existe et on n'en aurait pas eu connaissance. Et voilà, il arrive et il nous délivre tout cela. Vous l'avez rappelé, il y a les programmes, c'est ce qui fait force de loi, c'est ce qui fait notre obligation et c'est ce qui fait que tous les enfants de ce pays ont le même enseignement. C'est un outil important. Ensuite, qu'il y ait des documents officiels, on a déjà eu connaissance de cela, qu'il les décrypte un petit peu et qu'il leur donne des indications, c'est intéressant. Mais là, on est un petit peu sur autre chose. On est sur un ministre qui, finalement, ne s'adresse pas tant aux enseignants qu'à l'opinion publique, à laquelle il dit « Vous allez voir, avec moi, ça va bien se passer. Je leur donne une petite notice, qui est un peu grande, hein, puisqu'elle fait 130 pages quand même. Et avec ça, on va avoir de bons enseignants et on va résoudre les problèmes. »
Vous avez le sentiment qu'il vous vous reproche le niveau actuel dans les classes avec ces recommandations là quelque part?
On est loin de l'école de la confiance, ce qui est sûr, hein, puisque les pays qui réussissent font davantage confiance aux enseignants et leur laissent un petit peu de latitude pour adapter leur enseignement à la diversité de leurs élèves. Là, on a le sentiment qu'on a une méthode type qui conviendrait à tous les élèves de notre classe. Or, ce qui fait la richesse de notre métier, c'est quand même justement qu'on a face à nous des petites personnes très différentes et pour lesquelles il faut adapter l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs cette fameuse liberté pédagogique à laquelle on fait dire n'importe quoi. Mais là, il s'agit juste pour nous, la liberté pédagogique, c'est juste d'adapter l'apprentissage en fonction des besoins des élèves. Alors, on a un terrain d'accord avec le ministre, hein. C'est qu'effectivement, il y a des élèves qui quittent l'école élémentaire sans avoir tous les acquis nécessaires pour réussir au collège. Donc ça, c'est un vrai dossier. Il faut s'en emparer. On a des indicateurs pour ça. On a les évaluations internationales et elles ne nous disent pas que nos élèves ne savent pas déchiffrer ou qu'ils utiliseraient la méthode globale, parce qu'on y revient toujours, mais elle n'existe plus. On va rassurer tout le monde tout de suite. Ces évaluations nous disent qu'il faut travailler notamment la compréhension. Or, il semblerait que dans ce guide, la compréhension, ce n'est pas la part la plus importante.
Mais alors, pour résumer, ce plan de Jean-Michel Blanquer, c'est de la com?
Oui, je pense qu'il y a une volonté de ce ministre de durer, hein, de rester à ce poste. Il a tout loisir d'y rester en appuyant sur les leviers essentiels, c'est-à-dire l'abaissement des effectifs qu'il a commencé à faire en éducation prioritaire. Il faut continuer, hein, l'OCDE a pointé quand même notre difficulté dans ce domaine. Il faut qu'il insiste sur la formation initiale et la formation continue des enseignants, c'est essentiel. Et puis, il faut réfléchir aussi, et je sais qu'il en est d'accord, à un système de santé, à un système social aussi, autour de l'école. C'est tout cela qui va contribuer à faire réussir. On ne peut pas rester simplement parce qu'on a des solutions simplistes à offrir à l'opinion en disant, allez, on va donner le bon manuel qui va bien et tous les élèves de ce pays vont réussir. C'est trop simple, je crois que personne n'est dupe, donc il faut s'atteler au vrai chantier. 130 pages, c'est un gros travail, ça a pris du temps. Je crois qu'on aurait mieux fait de faire autre chose durant ce temps.
Un peu colère, hein, Français de Popinot quand même, on l'entend dans RTL Midi. N'oubliez pas vos cahiers à gros carreaux, donc c'est capital manifestement. Vous êtes les bienvenus au 3210, vos prises de parole, à la fois parents, grands-parents, instituteurs, profs, vous nous rejoignez au 3210 pour commenter tout cela, notamment cette dictée quotidienne de 10 à 15 minutes. Est-ce que vous êtes pour et favorable? Est-ce que ça peut faire avancer? Ça existe déjà, nous dit Français de Popinot. Donc vous en parlez avec nous, c'est au 3210, le standard est disponible.
C'est la journée emploi sur RTL en partenariat avec Facebook, la CPME et Workfor. N'hésitez pas à regarder nos offres sur RTL.fr. Elles sont 195 000 à vous attendre, dont plus de 12 000 dans le secteur automobile. On recherche des contrôleurs techniques, des carrossiers, des mécaniciens. Ça embauche par exemple chez Michelin. Avis à tous ceux qui sont doués de leurs mains, Christophe Bourroux.
Pour remplacer les départs à la retraite, Michelin recherche, pour ses 15 sites français, pas moins de 1000 opérateurs de production, des métiers très divers, détaillés par Jean-Paul Chiocchetti, le directeur des ressources humaines du groupe.
Ça peut être des conducteurs de machines, des confectionneurs de pneumatiques, il y a au moins une cinquantaine de postes différents à pourvoir.
Seulement voilà, les candidats ne se bousculent pas pour travailler en usine. Michelin a donc décidé de confier la recherche à Pôle emploi et pas besoin d'avoir un CV long comme le bras pour être sélectionné.
Le profil type, c'est quelqu'un qui a une habileté manuelle, capable de s'intégrer dans un monde industriel. On embauche des tapissiers, des anciens bouchers, des charcutiers, des coiffeurs, des gens qui n'ont pas de diplôme. Aucune exigence sur une expérience ou un diplôme.
Puis commence une formation de 3 mois minimum chez Michelin. Rémunération moyenne, un peu plus de 30 000 euros par an. Alors pour l'instant, 300 dossiers ont été retenus, même si le géant du pneumatique reconnaît qu'il a bien du mal à recruter dans certaines régions, comme dans l'Ouest, et aussi des femmes. D'ailleurs, l'objectif et d'en intégrer au moins 15% comme opérateur de production.
Christophe Bourroux du service économie de RTL.
On va vous raconter à présent une histoire qui nous a interpellé ce matin, celle d'une petite fille de 10 mois qui va mieux, tant mieux, mais elle a dû être hospitalisée à Paris. Le personnel s'est rendu compte, Guillaume Chies, qu'elle était intoxiquée par la fumée de cannabis.
Oui, une intoxication sévère diagnostiquée par le service des urgences pédiatriques de l'hôpital Trousseau. Plusieurs jours d'hospitalisation ont été nécessaires avant que l'enfant soit totalement rétabli. En parallèle, les médecins préviennent la justice. La brigade des mineurs ouvre une enquête, se rend au domicile des parents. Ils vivent avec leurs 3 enfants dans une chambre d'hôtel social parisien. En perquisition, les enquêteurs mettent la main sur 4 barrettes de cannabis. La justice ordonne une expertise des 2 frères aînés âgés de 2 et 4 ans. Résultat, tous 2 sont également positifs, intoxiqués par de la fumée de cannabis. Et dans leur sang, les médecins ont aussi retrouvé des traces de cocaïne. Les 2 parents âgés de 32 et 40 ans sont décrits comme polytoxicomanes. Ils seront prochainement jugés pour mise en danger de la vie d'autrui et soustraction aux obligations parentales.
Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
12h51, on vous envoie et on va directement à Marseille. D'ailleurs, dans un instant, Bénédicte Tassard n'en peut plus. C'est la demi-finale allée de la Ligue Europe ce soir face aux Autrichiens de Salzbourg. Tout un stade Vélodrome qui se prépare à fêter ce grand moment de football ce soir que vous vivrez bien sûr sur RTL. A tout de suite. Allez.
RTL Midi, Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassard.
À 7 minutes de 13h, on parle football et je vais laisser Bénédicte en parler, elle le fait tellement mais bien, oui. Car le Vélodrome va allumer le feu dans quelques heures.
Demi-finale allée de la Ligue Europe entre Marseille et les Autrichiens de Salzbourg, 14 ans après la dernière finale européenne de l'OM, face à Valence, c'était en Coupe de l'UEFA, on veut y croire, tout Marseille est en ébullition, 63 000 supporters sont attendus pour une folle soirée de foot, des supporters venus de toute la France, Hugo Hamelin, vous confirmez?
Oui, effectivement, on voit des maillots bleus et blancs un peu plus nombreux que d'habitude sur le Vieux-Port de Marseille où je me trouve en ce moment. Les derniers tickets pour le stade sont en train de changer de main, mais ils étaient malheureusement trop chers pour Momo qui était boueur à la ville. Lui, le match, ce sera à la maison.
C'est vrai, j'ai pas pu avoir de place et tout, mais j'ai un écran géant à la maison, un 4K, presque fait 2 mètres de diagonale. Bon, l'ambiance, bah, c'est sûr que l'ambiance, que, quand tu arrives au stade, t'as le son, t'as un truc de fou, c'est pas la même ambiance qu'à la maison, mais... Il y a des chances, c'est sûr qu'ils vont m'entendre gueuler, les voisins. S'ils me disent quoi que ce soit, eh ben viens, tu crées avec nous si tu veux, pas de soucis.
Record de décibels en perspective, donc dans les immeubles comme au stade Vélodrome. Pas d'écran géant installé ici ce soir, ce sera peut-être le cas au match retour. Vous l'avez dit, certains supporters sont venus de loin, de très loin. C'est le cas de Benjamin par exemple, il est descendu de Bourges hier avec 2 amis. C'est la même région d'origine que le joueur de l'OM, Florian Thauvin.
On est venu hier déjà pour profiter un petit peu de notre séjour à Marseille. Là, on va aller boire quelques coups, manger un bon restaurant pour se préparer psychologiquement. Et puis après, voilà, profiter à fond. On attend un beau spectacle. Puis on espère que ça sera l'enfer pour les joueurs autrichiens.
Voilà, comme vous, Bénédicte, les supporters sont plutôt confiants. Selon un petit sondage réalisé sur Internet hier, plus de 90% d'entre eux sont convaincus que l'OM va s'imposer ce soir.
Et on les attend, ces supporters, au 32-10 dès maintenant, que vous soyez fan de l'OM ou d'un autre club dans notre pays. Est-ce que c'est le foot tricolore qui est derrière cette équipe marseillaise? N'hésitez pas à un engouement national qui réjouit le président de l'OM. Jacques-Henri Hérault était ce matin l'invité d'Yves Calvi. Il se félicite de l'amour des Français pour son équipe.
L'OM, c'est un peu l'autre équipe de France. Dans le cœur des Français, il y a les Bleus et puis il y a l'OM. Et ça, c'est assez unique. Et évidemment, c'est notre chance, celle qui va porter les joueurs ce soir et bien au-delà du stade Vélodrome. Maintenant, face à une équipe qui a éliminé des grands d'Europe, je pense à Dortmund par exemple, c'est une équipe d'ailleurs qui nous a battus lors des phases de groupe. On ne s'enflamme pas. On essaye vraiment de comprendre l'adversaire du jour et de s'adapter. Mais ce qui jouera plus que tout, ce seront 2 éléments, le fait d'être collectif sur le terrain et le fait d'avoir dans les tribunes ce public incroyable qui va nous pousser.
Jacques-Henri Hérault avec Yves Calvi. Coup d'envoi à 21h05. Rendez-vous sur RTL à partir de 20h45 et jusqu'à 23h. Et si en plus du son, vous voulez les images, le match sera également diffusé sur W9. L'autre demi-finale, c'est à la même heure ce soir entre Arsenal et l'Atlético Madrid.
Et en attendant tout cela, on va en parler avec vous les auditeurs au 32-10. Vos appels dès maintenant. L'équipe de standardistes vous attend évidemment. Est-ce que Marseille peut atteindre une nouvelle finale européenne? Vous nous rejoignez, on dialogue ensemble. 3-2-1-0, les réseaux sociaux et la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Le ciel à suivre avec Patricia. Marseille va faire beau ce soir?
Ah, il va faire très beau ce soir sur Marseille avec une petite douceur printanière sur le terrain, un petit peu de mistral, mais je crois qu'il va faire très très chaud dans les tribunes.
Voilà, ça va être très très chaud. Le détail pour le reste de la France avec Patricia juste après ça. À tout de suite.
RTL Midi.
Patricia Charbonnier, le temps cet après-midi avec quelques nuages.
Oui, quelques nuages, plus nombreux que ce matin sur la moitié nord du pays et un tout petit risque d'averse, en particulier en Bretagne, en Normandie et sur les Ardennes, mais ces averses seront très très faibles. Le temps restera très ensoleillé sur les plages du nord, sur la côte aquitaine. Dans le sud, on a simplement quelques passages nuageux également dans le sud-ouest, mais c'est toujours très ensoleillé entre le massif central et les régions méditerranéennes, avec un peu de mistral et de tramontane et des températures un petit peu fraîches sur la moitié nord du pays. 13 degrés seulement cet après-midi à Brest, 14 degrés à Lille, 16 à Paris et Dijon, 17 à Limoges et Biarritz. C'est toujours de la douceur dans le sud, jusqu'à 24 degrés à Marseille cet après-midi et 25 à Narbonne.
Et demain, Patricia, eh bien on en profite. Hein, attention avant la dégradation de ce week-end.
Ça reste encore très calme pour demain avec du soleil, une bonne partie de la journée sur les régions de l'Est. On aura quelques plaques de grisaille demain matin sur les côtes méditerranéennes, alors que sur l'ouest du pays, c'est le début de la dégradation, avec un ciel qui sera de plus en plus nuageux, surtout dans l'après-midi. Quelques pluies sur la Bretagne, c'est une dépression qui va circuler sur le sud de l'Angleterre et nous apporter pas mal d'instabilité sur le nord-ouest du pays demain. Donc des pluies soutenues demain matin sur la Bretagne avec de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km/h en pointe. Et dans l'après-midi, quelques pluies sur les départements côtiers de la Manche, beaucoup de nuages des Hauts-de-France à l'Île-de-France et sur les Pays de la Loire, des nuages et quelques averses également près des Pyrénées, avec des températures comprises entre 3 et 16 degrés demain matin, 12 à 27 dans l'après-midi, 12 à Brest, 19 à Paris, 22 à Toulon, 27 à Grenoble. Pour samedi, les averses vont se multiplier avec une petite tendance orageuse et donc ça se confirme pour dimanche, forte dégradation avec de la pluie, des pluies parfois soutenues, des orages localement forts et même le retour de la neige sur les Pyrénées à partir de 1500 mètres avec une baisse des températures, on sera en dessous des normales de saison.
Le mauvais temps, c'est pour dimanche. Merci Patricia.
RTL.
Première radio de France.
RTL. Il est 13h.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassard.
Et le tout info des auditeurs ont la parole. Stéphane.
Absolument, je répète ce que vous disiez il y a quelques instants, Bénédicte. Ouais. Ça concerne une grève, une de plus chez Air France après les pilotes. C'est l'intersyndicale qui appelle donc à un jour de grogne et même plusieurs jours de grève. Je vous précise, vous faites des ronds sur votre agenda les 3, 4, 7 et 8 mai prochains. Voilà pour cette grève supplémentaire chez Air France. Le professeur Blanquer sonne la fin de la récré. Le ministre de l'Éducation nationale vient d'adresser une série d'instructions aux professeurs de l'école primaire pour lutter contre la baisse de niveau. Jean-Michel Blanquer veut le retour de la dictée tous les jours. Plus de photocopies, mais un manuel de lecture. Que la table des additions soit connue par cœur. 15 minutes de calcul par jour. Bref, le béaba avant tout, selon le ministre. Les maîtres et maîtresses vont recevoir le courrier dans les casiers de toutes les écoles de notre pays. Pour Béatrice, enseignante en Dordogne, ces annonces sont le moyen de détourner l'attention.
C'est encore une fois de plus de la com. Le moyen, effectivement, d'attirer l'attention sur autre chose. Parce que là, au niveau des facs, ça brûle. Donc, on va essayer d'attirer l'attention et la sympathie au niveau de la com en disant on va remettre les valeurs d'éducation de base pour nos élèves, etc. Le problème qui se passe, ce n'est pas les moyens pédagogiques. C'est les moyens en termes de personnel. Donc, quand vous avez 30 gamins en classe, les collègues, ils ne peuvent pas faire le boulot. C'est encore de la poudre aux yeux qui est mise en place pour détourner le débat par rapport au secondaire.
La colère de Béatrice, enseignante en Dordogne, au micro RTL d'Anaïs Bouissou. Alors Jean-Michel Blanquer a-t-il raison? On vous attend pour en parler. Parents, grands-parents, citoyens, instituteurs, vos appels dès maintenant au 3210 au standard. Le plan banlieue de Jean-Louis Borloo remis ce matin à Matignon, 169 pages. Un rapport pour améliorer le quotidien des quartiers populaires où vivent 8% des Français. Le plan Borloo propose la création d'un fonds de 5 milliards d'euros. Il faut, selon lui, relancer la rénovation urbaine à l'arrêt depuis 4 ans. Il plaide pour un travail énorme sur l'école avec des campus numériques dans les quartiers et le besoin d'un recrutement massif en alternance dans les entreprises. Emmanuel Macron annoncera courant mai son plan de mobilisation en faveur de ces banlieues. Plan Borloo que vous commentez au 3-2-1-0. Le président de retour des États-Unis, visite d'État marquée par ses entretiens avec Donald Trump, sa prise de parole au Congrès américain et par la présence à ses côtés de Brigitte Macron. Elle s'est longuement confiée à notre envoyé spécial à Washington, Vincent de Rosier, sur cette première année à l'Élysée. Extrait.
Ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a jamais de temps off. Jamais. C'est-à-dire, où que vous soyez, il y a toujours quelqu'un pour vous prendre en photo. Il n'y a jamais de moment où vous pouvez être totalement tranquille. C'est-à-dire que ça, c'est le côté le plus pesant. Il n'y a jamais, jamais, jamais de off, quoi qu'il arrive.
Les Macron bis, on apprend que deux hommes ivres ont été interpellés la nuit dernière au Touquet. Ils étaient en voiture, passant à plusieurs reprises à vive allure devant la maison du président et de son épouse dans la cité portuaire. Ils auraient tenté de renverser des piétons, soupçonnés d'outrage, de rébellion et de mise en danger d'autrui. Ils ont été interpellés vers 3h du matin et placés en garde à vue. Une soirée de folie au Vélodrome à Marseille où l'OM reçoit à 21h05 les Autrichiens de Salzbourg en demi-finale aller de la Ligue Europe. On aurait pu remplir ouvert trois fois le stade Vélodrome. Tant l'attente des supporters est immense, les Payet, Thauvin, Ramy sont prêts pour le défi. Et l'entraîneur Rudy Garcia aussi, face à une équipe que les Olympiens n'avaient pas battue en match de poule.
Effectivement, la différence, c'est qu'on est sur une double confrontation à élimination directe. On n'est plus sur un mini championnat à quatre équipes et à six matchs. Donc c'est complètement différent aujourd'hui. Et on est à un autre moment de la saison. Voilà, ils ont aussi quelques joueurs nouveaux, comme Ramalho, par exemple, en défense centrale. Donc la vérité des poules sera peut-être pas celle-là. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite, nous. Puisque, comme je l'ai souligné, cette équipe, on n'a pas réussi à la battre et à lui mettre un but pour l'instant. Donc on fera tout pour que ça change dans cette demi-finale. Où on espère qu'on aura plus d'expérience que cette équipe à ce niveau de la compétition.
Rudy Garcia, le coach de l'OM, avec Hugo Hamelin. Un match à vivre en direct sur RTL. Soirée spéciale de 20h45 à 23h. Pour les images, la rencontre diffusée chez nos confrères de W9. Vous rêvez d'une finale pour Marseille. L'OM peut-il le faire? Vos appels au 32-10. On vous écoute dans un instant. La Bourse de Paris, le point à la mi-journée sur RTL. On va écouter Sylvie Aubert. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bon, c'est mieux, hein.
La Bourse de Paris repart de l'avant aujourd'hui après un démarrage tout en douceur. Le CAC 40 progresse désormais de 0,4%. 5435 points. Les investisseurs marchent un peu sur des œufs. En ce moment, ils sont tiraillés entre les tensions sur l'obligataire américain d'un côté et les publications de comptes trimestriels de l'autre. Alors hier à Wall Street, le Dow Jones s'est repassé in extremis dans le vert en fin de journée. Il n'a gagné que 0,2%, mais c'était bien puisque c'était la première hausse après 5 séances consécutives de baisse à Wall Street. Les bons résultats de Boeing ont soutenu la tendance américaine. De plus, Facebook a annoncé, après bourse, des chiffres supérieurs aux prévisions et du coup, le titre devrait progresser tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street. On attend les profits de Microsoft et Intel dans la soirée. En Asie ce matin, Samsung a annoncé aussi d'excellents résultats portés par la bonne santé du secteur des puces mémoire. Alors aujourd'hui, les opérateurs ont les yeux tournés vers la BCE qui réunit tout à l'heure son comité. Le statu quo devrait prévaloir, mais Mario Draghi prononcera un discours. Il sera bien sûr très écouté. Du côté des valeurs, Total a annoncé ce matin une production record au premier trimestre. Le titre progresse, plus 0,7%. Carrefour, qui a annoncé avoir signé avec ses syndicats au sujet des deux plans sociaux, gagne près de 4%. A l'inverse, Technicolor plonge de 11%. Le groupe a évoqué des pressions persistantes sur ses marges.
Merci beaucoup Sylvie Aubert d'Investir les Échos.
L'histoire du jeudi, histoire touchante que vous nous racontez, Patrick Hisson, depuis Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Un jour sur la Terre nous conduit en Haute-Garonne avec un déménagement amoureux. Une histoire qui nous ramène d'abord 78 ans en arrière.
Oui, nous sommes en 1940 dans l'Aveyron à Villefranche de Rouergue et Arlette Paulus n'a jamais oublié ce premier regard échangé avec Pierre Castellet. Elle est originaire des Ardennes et lui compagnon de France à Perpignan. À ce regard figé dans sa mémoire et sur une photo qu'elle a conservée, va succéder une véritable passion. Mais la guerre sépare les deux amoureux et Pierre le résistant est fusillé par les SS le 27 juin 1944 au bois de Rolles à Castelmouroux, au nord de Toulouse. Longtemps, Arlette n'en saura rien. Jusqu'au jour, il y a deux ans, un groupe de recherche permet de mettre un nom sur les restes de corps de fusillés retrouvés dans le bois. Le nom de Pierre apparaît dans la dépêche du midi et c'est là qu'Arlette retrouve la trace de celui qui est le seul grand amour de sa vie et qui repose désormais dans un caveau du cimetière de Castelmouroux, un village où Arlette, 93 ans, a donc décidé de s'installer après avoir quitté sa maison de retraite en Auvergne. Le climat est ici beaucoup plus doux, se ravit Arlette. Et surtout, je suis tout près de mon Pierre, son fiancé fauché par la guerre il y a 74 ans.
Récit Patrick Hisson, RTL Toulouse, un jour sur la terre, des histoires à podcaster sur RTL.fr.
Vous écoutez RTL.